Chapitre 5. L'anomie en société d'abondance. La violence. La société de consommation est, dans un même mouvement, une société de sollicitude et une société de répression, une société pacifiée et une société de violence. Nous avons vu que la quotidienneté pacifiée s'alimentait continuellement de violences consommées, de violences allusives, faits divers, meurtres, révolutions, menaces atomiques ou bactériologiques, toute la substance apocalyptique des masses médias. Nous avons vu que l'affinité de la violence avec l'obsession de sécurité et de bien-être n'est pas accidentelle. La violence spectaculaire et la pacification de la vie quotidienne sont homogènes entre elles, parce qu'aussi abstraites l'une que l'autre, et vivant toutes deux de mythes et de signes. On pourrait dire aussi que la violence de nos jours est inoculée dans la vie quotidienne à dose homéopathique, un vaccin contre la fatalité, pour conjurer le spectre de la fragilité réelle de cette vie pacifiée. Car ce n'est plus le spectre de la rareté qui hante la civilisation d'abondance, c'est le spectre de la fragilité. Et ce spectre, beaucoup plus menaçant parce qu'il concerne l'équilibre même des structures individuelles et collectives, ce spectre qu'il faut conjurer à tout prix, l'est en fait par ce détour de la violence consommée, conditionnée, homogénéisée. Cette violence-là n'est pas dangereuse, pas plus le sang que le sexe à la une ne compromettent l'ordre social et moral, en dépit du chantage des censeurs qui veulent s'en persuader et nous en persuader. Il témoigne simplement que cet équilibre est précaire, que cet ordre est fait de contradictions. Le problème véritable de la violence se pose ailleurs, c'est celui de la violence réelle, incontrôlable, que sécrètent la profusion et la sécurité une fois atteint un certain seuil. Non plus la violence intégrée, consommée avec le reste, mais la violence incontrôlable que le bien-être sécrète dans son accomplissement même. Cette violence se caractérise très exactement comme la consommation telle que nous l'avons définie, et non dans son acceptation superficielle, par le fait qu'elle est sans fin et sans objet. C'est parce que nous vivons de l'idée traditionnelle de la pratique du bien-être comme activité rationnelle que la violence éruptive, insaisissable, des bandes de jeunes de Stockholm, des désordres de Montréal, des meurtriers de Los Angeles nous apparaît comme une manifestation inouïe, incompréhensible, contradictoire, semble-t-il, avec le progrès social et l'abondance. C'est parce que nous vivons de l'illusion morale de la finalité consciente de toute chose, de la rationalité fondamentale des choix individuels et collectifs. Tout le système de valeurs est fondé là-dessus. Il y a dans le consommateur un instinct absolu qui le porte par essence vers ses fins préférentielles. Mythe moral de la consommation qui hérite totalement du mythe idéaliste de l'homme naturellement porté vers le beau et le bien. Que cette violence nous apparaît innommable, absurde, diabolique. Or elle veut peut-être tout simplement dire que quelque chose déborde de loin les objectifs conscients de satisfaction et de bien-être par où cette société se justifie, à ses propres yeux, par où plutôt elle se réinscrit dans les normes de rationalité consciente. Dans ce sens, cette violence inexpliquée doit nous faire revoir toutes nos idées sur l'abondance. L'abondance et la violence vont de pair, elles doivent être analysées ensemble. Le problème plus général dans lequel s'inscrit celui de cette violence sans objet, encore sporadique dans certains pays, mais virtuellement endémique dans tous les pays développés ou surdéveloppés, est celui des contradictions fondamentales de l'abondance et non plus seulement de ses disparités sociologiques. C'est celui des multiples formes d'anomie, pour reprendre le terme de Durkheim, ou d'anomalie, selon qu'on les réfère à la rationalité des institutions ou à l'évidence vécue de la normalité, qui vont de la destructivité, violence, délinquance, à la dépressivité contagieuse, fatigue, suicide, névrose, en passant par les conduites collectives d'évasion, drogue, hippie, non-violence. Tous ces aspects caractéristiques de l'affluent society, ou de la permissive society, posent, chacun à sa façon, le problème d'un déséquilibre fondamental. Il n'est pas facile de s'adapter à l'abondance, disent Galbraith et les stratèges du désir. Ouvrez les guillemets. Nos idées sont enracinées dans la pauvreté, l'inégalité et le péril économique du passé. Fermez les guillemets. Ou bien dans des siècles de morale puritaine où l'homme a perdu l'habitude du bonheur. Cette difficulté d'être dans l'abondance démontrait à elle seule, s'il le fallait, que la prétendue naturalité du désir de bien-être n'est pas si naturelle que ça. Sinon, les individus n'auraient pas tant de mal à s'y faire, ils sauteraient à pieds joints dans la profusion. Ceci devrait nous faire pressentir qu'il y a dans la consommation autre chose de tout différent, peut-être même l'inverse, quelque chose à quoi il faut éduquer, dresser et domestiquer les hommes. En fait, un nouveau système de contraintes morales et psychologiques qui n'a rien à voir avec le règne de la liberté. Le lexique des néo-philosophes du désir est significatif à cet égard. Il n'est question que d'apprendre aux hommes à être heureux, de leur apprendre à se consacrer au bonheur, d'aménager chez eux les réflexes du bonheur. L'abondance n'est donc pas un paradis, le saut par-delà la morale dans l'immortalité rêvée de la profusion, c'est une nouvelle situation objective régie par une nouvelle morale. Objectivement parlant, ce n'est donc pas un progrès, c'est tout simplement quelque chose d'autre. L'abondance a donc ceci d'ambigu qu'elle est toujours à la fois vécue comme mythe euphorique, de résolution des tensions des conflits, de bonheur au-delà de l'histoire et de la morale, et endurée comme processus d'adaptation plus ou moins forcé à un nouveau type de conduite, de contraintes collectives et de normes. La révolution de l'abondance n'augure pas la société idéale, elle introduit simplement à un autre type de société. Nos moralistes voudraient bien réduire ce problème de société à un problème de mentalité. Pour eux, l'essentiel est déjà là. L'abondance réelle est là. Il suffit de passer de la mentalité de pénurie à la mentalité d'abondance. Et de déplorer que ce soit si difficile, et de s'effarer de voir surgir des résistances à la profusion. Il n'est pourtant que d'admettre un instant l'hypothèse selon laquelle l'abondance elle-même n'est qu'un, ou du moins est aussi, système de contraintes d'un type nouveau pour comprendre aussitôt qu'à cette nouvelle contrainte sociale, plus ou moins inconsciente, ne peut que répondre un type nouveau de revendication libératrice. En l'occurrence, le refus de la société de consommation, sous sa forme violente et hérostatique, destruction aveugle de biens matériels et culturels, ou non violente et démissive, refus d'investissement productif et consommatif. Si l'abondance était liberté, alors cette violence serait en effet impensable. Si l'abondance, la croissance, est contrainte, alors cette violence se comprend d'elle-même, elle s'impose logiquement. Si elle est sauvage, sans objet, informel, c'est que les contraintes qu'elle conteste sont elles aussi informulées, inconscientes, illisibles. Ce sont celles-mêmes de la liberté, de l'accession contrôlée au bonheur, de l'éthique totalitaire de l'abondance. Cette interprétation sociologique laisse place, je crois qu'elle s'articule même profondément, à une interprétation psychanalytique de ces phénomènes apparemment aberrants des sociétés riches. Les moralistes dont nous avons parlé, qui se veulent aussi psychologues, parlent tous de culpabilité. Ils entendent tous par là une culpabilité résiduelle, venue des âges puritains et qui ne peut, selon leur logique, qu'être en voie de résorption. Ouvrez les guillemets, nous ne sommes pas mûrs pour le bonheur. Les préjugés qui nous font tant de mal. Fermez les guillemets. Or, il est clair que cette culpabilité, acceptons le terme, s'approfondit au contraire au fil de l'abondance. Un gigantesque processus d'accumulation primitive d'angoisse, de culpabilité, de refus, court parallèlement au processus d'expansion et de satisfaction, et c'est ce contentieux qui alimente la subversion violente, impulsive, les acting out meurtriers contre l'ordre même du bonheur. Ce n'est donc pas le passé, la tradition ou quelque autre stigmate du péché originel, qui font les hommes fragiles devant le bonheur se désunir dans l'abondance même et se dresser à l'occasion contre elle. Même si cette hypothèse pèse encore, ce n'est plus là l'essentiel. La culpabilité, le malaise, les incompatibilités profondes sont au cœur du système actuel lui-même et produits par lui au fil de son évolution logique. Forcé de s'adapter aux principes de besoin, aux principes d'utilité, principes de réalité économique, c'est-à-dire à la corrélation toujours pleine et positive d'un produit quelconque, objet, bien, service, et d'une satisfaction, par indexation de l'une sur l'autre, contrainte à cette finalité concertée, unilatérale et toujours positive, toute la négativité du désir, autre versant de l'ambivalence, économique et psychologique, vive d'équivalence et de rationalité, il postule que tout s'accomplit dans l'orientation positive du sujet vers l'objet dans le besoin. Si celui-ci est satisfait, tout est dit. Ils oublient qu'il n'y a pas de besoin satisfait, c'est-à-dire quelque chose d'achevé où il n'y ait que de la positivité, ceci n'existe pas. Il n'y a que du désir et le désir est ambivalent. Donc, toute cette postulation inverse est laissée pour compte, censurée par la satisfaction même, qui n'est pas la jouissance, La jouissance est, elle, ambivalente, et ne trouvant plus à s'investir, cristallise en un gigantesque potentiel d'angoisse. Ainsi s'éclaire ce problème fondamental de la violence en société d'abondance et indirectement tous les symptômes anomaliques, dépressifs et démissifs. Cette violence radicalement différente de celle qu'engendre la pauvreté, la pénurie, l'exploitation, c'est l'émergence en acte de la négativité du désir, omise, occultée, censurée par la positivité totale du besoin. C'est le mode adverse de l'ambivalence qui ressurgit au sein même de l'équivalence béate de l'homme et de son environnement dans la satisfaction. C'est encore l'impératif de productivité-consommativité, l'émergence de la destructivité, pulsion de mort pour laquelle il ne saurait y avoir de structure d'accueil bureaucratique, puisqu'alors elle rentrerait dans un processus de satisfaction planifiée, donc dans un système d'institutions positives. Nous verrons pourtant que, tout comme il existe des modèles de consommation, la société suggère ou met en place des modèles de violence par où elle cherche à drainer, à contrôler et à mass-médiatiser ces formes éruptives. En effet, pour empêcher que ce potentiel d'angoisse accumulé du fait de la rupture de la logique ambivalente du désir, et donc de la perte de la fonction symbolique, ne résultant cette violence anomique et incontrôlable, la société joue à deux niveaux. D'une part, elle tente de résorber cette angoisse par la prolifération des instances de sollicitude, rôles, fonctions, services collectifs innombrables, partout on injecte du lénifiant, du souriant, du déculpabilisant, du lubrifiant psychologique, tout comme du détergent dans les produits de lessive. Des enzymes dévorant l'angoisse. On vend aussi du tranquillisant, du relaxatif, de l'hallucinogène, de la thérapie de tout poil. Tâche sans issue dans laquelle la société d'abondance, productrice de satisfaction sans fin, épuise ses ressources à produire aussi l'antidote à l'angoisse née de cette satisfaction. Un budget de plus en plus lourd passe à consoler les miraculés de l'abondance de leur satisfaction anxieuse. On peut l'assimiler au déficit économique, d'ailleurs non comptabilisable, dû aux nuisances de la croissance, pollution, obsolescence accélérée, promiscuité, rareté des biens naturels, mais il les dépasse sans aucun doute de très loin. D'autre part, la société peut essayer, et elle le fait systématiquement, de récupérer cette angoisse comme relance de la consommation, ou de récupérer cette culpabilité et cette violence à leur tour comme marchandise, comme bien consommable ou comme signe culturel distinctif. Il y a alors un luxe intellectuel de la culpabilité, caractéristique de certains groupes, une valeur d'échange culpabilité. Ou bien encore, le malaise de la civilisation est donné à consommer avec le reste. Il est resocialisé comme denrée culturelle et objet de délectation collective, ce qui ne fait que renvoyer plus profondément à l'angoisse, puisque cette métaconsommation culturelle équivaut à une censure nouvelle et reconduit le processus. Quoi qu'il en soit, violence et culpabilité sont ici médiatisées par des modèles culturels et retournent à la violence consommée, dont nous parlions au début. Ces deux mécanismes de régulation jouent puissamment, sans pourtant réussir à désamorcer le processus critique de retournement, de conversion subversive de l'abondance dans la violence. Inutile d'ailleurs d'épiloguer et de geindre, comme le font tous les critiques, sur cette fatalité de la violence, sur l'engrenage, sur la prophylaxie morale et sociale possible, ou au contraire sur le laxisme paternaliste. Il faut bien que les jeunes se défoulent. Certains regretteront le temps où la violence avait un sens, la bonne vieille violence guerrière, patriotique, passionnelle, rationnelle au fond. La violence sanctionnée par un objectif ou par une cause, la violence idéologique ou encore celle individuelle du révolté, qui relevait encore de l'esthétique individuelle et pouvait être considérée comme un des beaux-arts. Tous chercheront à ramener cette violence nouvelle à des modèles antérieurs et à la traiter par des médications connues. Mais il faut voir que cette violence, qui n'est plus proprement historique, qui n'est plus sacrée, rituelle ou idéologique et qui n'est pas pour autant acte pur et singularité individuelle, il faut voir que cette violence est structurellement liée à l'abondance. C'est pourquoi elle est irréversible, toujours imminente, et si fascinante pour tous, quoi qu'ils en aient. C'est qu'elle s'enracine dans le processus même de croissance et de satisfaction multipliée, où chacun est désormais impliqué. De temps en temps, au sein de notre univers clos de violence et de quiétude consommée, cette violence nouvelle vient réassumer aux yeux de tous une partie de la fonction symbolique perdue, très brièvement, avant de se résorber elle-même en objet de consommation. Serge Lenz, la poursuite impitoyable, les dernières scènes du film sont d'une telle sauvagerie que, pour la première fois de ma vie, je suis sorti d'une projection les mains tremblantes. Dans les salles de New York où le film est actuellement projeté, ces mêmes scènes provoquent des réactions insensées. Lorsque Marlon Brando se jette sur un homme pour le battre, des spectateurs affolés, hystériques, se lèvent en hurlant « Kill him, kill him, massacre-le ». Juillet 1966. Richard Speck pénètre dans un dortoir d'infirmière de Chicago Sud. Il bâillonne et entrave 8 jeunes filles d'une vingtaine d'années, puis il les exécute une à une à coups de couteau ou par strangulation. Août 1966. C.H. J. Whitman, étudiant architecte de l'université d'Austin, Texas, s'installe avec une douzaine de fusils au sommet d'une tour de 100 mètres qui domine le campus de l'université et se met à tirer. 13 morts, 31 blessés. Amsterdam, juin 1966. Pour la première fois depuis la guerre, pendant plusieurs jours, on s'est battu avec une violence inouïe au cœur même de la ville. L'immeuble du Télégraphe pris d'assaut, camions brûlés, vitrines enfoncées, panneaux arrachés, des milliers de manifestants déchaînés, millions de florins de dégâts, un mort, des dizaines de blessés, la révolte des provos. Montréal, octobre 1969. De graves désordres ont éclaté mardi à la suite d'une grève des policiers et des pompiers. 200 chauffeurs de taxi mettent à sac les locaux d'une compagnie de transport. Fusillade, 2 morts. Après cette attaque, un millier de jeunes se sont dirigés vers le centre de la ville, brisant les vitrines, pillant les magasins. 10 attaques de banque, 19 agressions à main armée, 3 explosions terroristes, multitude de cambriolages. Devant l'ampleur de ces événements, le gouvernement a mis l'armée en état d'alerte et réquisitionné la police par une loi d'urgence. Le meurtre de la villa Polanski, 5 personnes plus ou moins célèbres assassinées dans une villa des collines de Los Angeles, dont la femme de Polanski, metteur en scène de films sado-fantastiques. Meurtre d'idole, exemplaire parce que matérialisant par une sorte d'ironie fanatique, dans les détails même du meurtre et dans sa mise en scène, certains traits des films qui avaient fait le succès et la gloire des victimes, intéressant parce qu'illustrant le paradoxe de cette violence, à la fois sauvage, irrationnelle, sans objectif évident, et ritualiste, indexé sur des modèles spectaculaires imposés par les masses médias, ici les films mêmes de Polanski. Meurtre comme celui de la tour d'Austin, non passionnel, non crapuleux, non intéressé, hors des critères juridiques et de responsabilité traditionnelle. Meurtres irréfléchis et pourtant réfléchis à l'avance. Ici, de façon hallucinante, jusqu'au mimétisme, par les modèles masse-médiatiques et se réfléchissant par la même voie dans des acting out ou des meurtres semblables, CF aussi les suicides par le feu. Car cela les définit, leur connotation spectaculaire de faits divers, tels qu'ils sont conçus d'emblée comme scénarios de films ou de reportages, et leur tentative désespérée, en reculant les limites de la violence, d'être irrécupérable, de transgresser et de briser cet ordre masse-médiatisé dont ils sont complices jusque dans leur véhémence asociale. Subculture de la non-violence. Solidaires, quoique formellement opposés, de ces phénomènes de violence d'un type nouveau, sont les phénomènes modernes de non-violence. Du LSD au flower power, du psychédélisme au hippie, du zen à la pop-musique, tous ont en commun le refus de la socialisation par le standing et le principe de rendement, le refus de toute cette liturgie contemporaine de l'abondance, de la réussite sociale et du gadget. Que le refus se veuille violent ou non-violent, il est toujours le refus de l'activisme de la société de croissance, du forcing au bien-être comme nouvel ordre répressif. En ce sens, violence et non-violence jouent bien, comme tous les phénomènes anomiques, le rôle de révélateur. De cette société qui se veut et se voit hyperactive et pacifiée, les beats et les rockers, d'une part, les hippies de l'autre, révèlent que ses caractéristiques profondes sont, à l'inverse, la passivité et la violence. Les uns ressaisissent la violence latente de cette société pour la retourner contre elle en la poussant au paroxysme, les autres poussent la passivité secrète, orchestrée, derrière la façade de suractivité, de cette société jusqu'à une pratique de démission et d'asocialité totale, la faisant ainsi se nier elle-même selon sa propre logique. Laissons de côté toute la thématique christique, bouddhique, lamaïque, d'amour, de réveil, de paradis sur terre, de litanie hindoue et de tolérance totale. La question serait plutôt celle-ci. Les hippies et leurs communautés constituent-ils une véritable alternative au processus de croissance et de consommation? N'en sont-ils pas l'image inverse et complémentaire? Sont-ils une antisociété propre à faire basculer à terme l'ordre social tout entier? Ou n'en sont-ils qu'un fleuron décadent? Ou même simplement un des multiples avatars des sectes épiphaniques qui, de tout temps, se sont jetés hors du monde pour forcer le paradis sur terre? Là encore, il ne faudrait pas prendre pour subversion d'un ordre ce qui n'en serait qu'une métamorphose. Ouvrez les guillemets. Nous voulons avoir le temps de vivre et d'aimer. Les fleurs, les barbes, les cheveux longs, la drogue, c'est secondaire. Être hype, c'est être un ami de l'homme avant tout. Quelqu'un qui essaie de regarder le monde avec des yeux neufs, déhiérarchisés, un non-violent respectueux et amoureux de la vie. Quelqu'un qui a des valeurs vraies et des critères vrais, liberté avant autorité, création avant production, coopération et non-compétition. Simplement quelqu'un de gentil et d'ouvert qui évite de faire du mal aux autres. Voilà, c'est l'essentiel. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. En règle générale, faire ce qu'on pense être bien quand et où que ce soit, sans s'occuper d'être approuvé ou désapprouvé, à la seule condition expresse que cela ne fasse de mal ni de tort à personne, etc. Fermez les guillemets. Les hippies ont immédiatement défrayé la chronique du monde occidental. Friande de sociétés primitives, la société de consommation les a immédiatement récupérés dans son folklore comme une flore étrange et inoffensive. Ne sont-ils pas finalement, d'un point de vue sociologique, qu'un produit de luxe des sociétés riches? Ne sont-ils pas, eux aussi, avec leur spiritualité orientalisante, leur psychédélisme bariolé, des marginaux qui ne font qu'exacerber certains traits de la société? Ils sont ou restent conditionnés par les mécanismes fondamentaux de cette société. Leur asocialité est communautaire, tribale. On peut même évoquer à leur égard le tribalisme de McLuhan, cette résurrection à l'échelle planétaire sous le signe des masses médias, du monde oral, tactile, musical, de communication qui fut celui des cultures archaïques avant l'ère virtuelle et typographique du livre. Ils prônent l'abolition de la concurrence, du système de défense et des fonctions du moi. Ils ne font là que traduire en termes plus ou moins mystiques ce que Risman décrivait déjà comme évolution objective d'une structure personnelle du caractère, organisée autour du moi et du surmoi, vers une ambiance groupale, où tout vient des autres et diffuse vers les autres. Le mode de transparence affective candide, qui est celui des hippies, n'est pas sans évoquer l'impératif de sincérité, d'ouverture, de chaleur qui est celui du pire groupe. Quant à la régression et à l'infantilité, qui font le charme séraphique et triomphant des communautés hippies, inutile de dire qu'elles ne font que répercuter en les exaltant l'irresponsabilité et l'infantilisme où la société moderne enferme chacun de ses individus. Bref, l'humain traqué par la société productiviste et l'obsession du standing fait chez les hippies sa résurrection sentimentale où persiste derrière l'apparente anomie totale tous les traits structurels dominants de la société modale. Risman parle à propos de la jeunesse américaine d'un style Quakiult et d'un style Pueblo, se référant au modèle culturel défini par Margaret Mead. Les Quakiult sont violents, agnostiques, compétitifs, riches et pratiquent la consommation effrénée dans les potlatches. Les Pueblos sont doux, bienveillants, gentils, vivants et se contentant de peu. Ainsi, notre société actuelle peut-elle se définir par l'opposition formelle d'une culture dominante, celle de la consommation effrénée, rituelle et conforme, culture violente et concurrentielle, le potlatch des Quakiult, et cette subculture laxiste, euphorique et démissive des hippies Pueblos. Mais tout porte à croire que, de même que la violence aussitôt se résorbe dans des modèles de violence, ainsi la contradiction ici se résout en coexistence fonctionnelle. L'extrême de l'adhésion et l'extrême du refus se rejoignent, comme dans l'anneau de Moebius, par une simple torsion. Et les deux modèles, au fond, se développent en aires concentriques autour du même axe de l'ordre social. John Stuart Mill a exprimé ceci cruellement. Ouvrez les guillemets. De nos jours, le seul fait de donner l'exemple du non-conformisme, le simple refus de plier le genou devant les usages, est en soi-même un service. Fermez les guillemets. La fatigue. Il y a désormais un problème mondial de la fatigue comme il y a un problème mondial de la faim. Paradoxalement, ils sont exclusifs l'un de l'autre. La fatigue endémique, incontrôlable, est, avec la violence incontrôlable dont nous avons parlé, l'apanage des sociétés riches, et résulte entre autres du dépassement de la faim et de la pénurie endémique, qui reste le problème majeur des sociétés pré-industrielles. La fatigue, comme syndrome collectif des sociétés post-industrielles, rentre ainsi dans le champ des anomalies profondes, des dysfonctions du bien-être. Nouveau mal du siècle. Elle est à analyser en conjonction avec les autres phénomènes anomiques dont la recrudescence marque notre époque, alors que tout devrait contribuer à les résoudre. Comme la violence nouvelle est sans objet, cette fatigue aussi est sans cause. Elle n'a rien à voir avec la fatigue musculaire et énergétique. Elle ne vient pas de la dépense physique. On parle bien sûr spontanément de dépenses nerveuses, de dépressivité et de conversion psychosomatique. Ce type d'explication fait maintenant partie de la culture de masse. Elle est dans tous les journaux et dans tous les congrès. Chacun peut s'y retrancher comme derrière une nouvelle évidence, avec le plaisir morose d'être traqué par ses nerfs. Certes, cette fatigue signifie au moins une chose, même fonction de révélateur que la violence et la non-violence. C'est que cette société qui se donne et se voit toujours en progrès continu vers l'abolition de l'effort, la résolution des tensions, vers plus de facilité et d'automatisme, est en fait une société de stress, de tension, de doping, où le bilan global de satisfaction accuse un déficit de plus en plus grand, où l'équilibre individuel et collectif est de plus en plus compromis à mesure même que se multiplient les conditions techniques de sa réalisation. Les héros de la consommation sont fatigués. Plusieurs interprétations peuvent être avancées au plan psychosociologique. Au lieu d'égaliser les chances et d'apaiser la compétition sociale, économique, statutaire, le procès de la consommation rend plus violente, plus aiguë la concurrence sous toutes ses formes. Avec la consommation, nous sommes enfin seulement dans une société de concurrence généralisée, totalitaire, qui joue à tous les niveaux, économique, savoir, désir, corps, signes et pulsions, toutes choses désormais produites comme valeur d'échange dans un processus incessant de différenciation et de surdifférenciation. On peut admettre aussi, avec Schombard de Lowe, qu'au lieu d'appareiller, comme elle prétend le faire, les aspirations, les besoins et les satisfactions, cette société crée des distorsions toujours plus grandes, chez les individus comme dans les catégories sociales aux prises avec l'impératif de concurrence et de mobilité sociale ascendante, en même temps qu'avec l'impératif désormais fortement intériorisé de maximiser ses jouissances. Sous tant de contraintes adverses, l'individu se désunit. La distorsion sociale des inégalités s'ajoute à la distorsion interne entre besoins et aspirations pour faire de cette société une société de plus en plus irréconciliée, désintégrée, en état de malaise. La fatigue, ou asthénie, sera alors interprétée comme réponse, sous forme de refus passif, de l'homme moderne à ses conditions d'existence. Mais il faut bien voir que ce refus passif est en fait une violence latente, et qu'à ce titre, elle n'est qu'une des réponses possibles, dont les autres formes sont celles de la violence ouverte. Là encore, il faut restituer le principe d'ambivalence. Fatigue, dépressivité, névrose sont toujours convertibles en violence ouverte et réciproquement. La fatigue du citoyen de la société post-industrielle n'est pas loin de la grève larvée, du freinage, du slowing down des ouvriers en usine ou de l'ennui scolaire. Toutes sont les formes de résistance passive, incarnées au sens où l'on parle d'un ongle incarné, qui se développe dans la chair, vers l'intérieur. En fait, il faut inverser tous les termes de la vision spontanée. La fatigue n'est pas de la passivité opposée à la suractivité sociale extérieure. C'est au contraire la seule forme d'activité opposable dans certaines conditions à la contrainte de passivité générale qui est celle des rapports sociaux actuels. L'élève fatigué, c'est celui qui subit passivement le discours du professeur. L'ouvrier, le bureaucrate fatigué, c'est celui à qui on a ôté toute responsabilité dans son travail. L'indifférence politique, cette catatonie du citoyen moderne, c'est celle de l'individu à qui toute décision échappe, ne conservant que la dérision du suffrage universel. Et il est vrai que ceci passe aussi par la monotonie physique et psychique du travail à la chaîne et au bureau, par la catalepsie musculaire, vasculaire, physiologique des stations debout ou assises imposées, des gestes stéréotypés, de toute l'inertie et du sous-emploi chronique du corps dans notre société. Mais là n'est pas l'essentiel et c'est pourquoi on ne guérira pas la fatigue pathologique par le sport et l'exercice musculaire, comme le disent les spécialistes naïfs, pas plus que par les tranquillisants ou les stimulants. Car la fatigue est une contestation larvée, qui se retourne contre soi et s'incarne dans son propre corps parce que, dans certaines conditions, c'est la seule chose à laquelle l'individu dépossédé puisse s'en prendre. De la même façon que les Noirs qui se révoltent dans les villes d'Amérique commencent par brûler leur propre quartier, la vraie passivité est dans la conformité joyeuse au système. Chez le cadre dynamique, l'œil vif et l'épaule large parfaitement adaptés à son activité continuelle. La fatigue, elle, est une activité, une révolte latente, endémique, inconsciente d'elle-même. Ainsi s'éclaire sa fonction, le slowing down sous toutes ses formes est, comme la névrose, la seule issue pour éviter le total et véritable breakdown. Et c'est parce qu'elle est une activité latente qu'elle peut soudainement se reconvertir en révolte ouverte, comme le mois de mai l'a partout montré. La contagion spontanée totale, la traînée de poudre du mouvement de mai ne se comprend que dans cette hypothèse. Se comprenait pour une atonie, une désaffection, une passivité généralisée était en fait un potentiel de force active dans leur résignation même, dans leur fatigue, dans leur reflux et donc immédiatement disponible. Il n'y a pas eu de miracle. Et le reflux depuis mai n'est pas non plus une inversion inexplicable du processus, c'est la conversion d'une forme de révolte ouverte à une modalité de contestation latente. Le terme « contestation », d'ailleurs, ne devrait strictement valoir que pour cette dernière forme. Elle désigne les multiples formes de refus coupées momentanément d'une pratique de changement radical. Ceci dit, il reste que pour saisir le sens de la fatigue, il faut, au-delà des interprétations psychosociologiques, la replacer dans la structure générale des états dépressifs. Insomnie, migraine, céphalée, obésité pathologique ou anorexie, atonie ou hyperactivité compulsive, formellement différents ou opposés, ces symptômes peuvent en réalité s'échanger, se substituer les uns aux autres. La conversion somatique s'accompagnant toujours, se définissant même par la convertibilité virtuelle de tous les symptômes. Or, c'est là le point capital. Cette logique de la dépressivité, à savoir que n'étant plus liée à des lésions organiques ou à des dysfonctions réelles, les symptômes se baladent, fait écho à la logique même de la consommation, à savoir que, n'étant plus liée à la fonction objective des objets, besoins et satisfactions se succèdent, renvoient les uns aux autres, se substituent les uns aux autres en fonction d'une insatisfaction fondamentale. C'est le même caractère insaisissable, illimité. C'est la même convertibilité systématique qui règle le flux des besoins et la fluidité des symptômes dépressifs. Nous reviendrons ici sur le principe d'ambivalence, déjà abordé à propos de la violence, pour résumer l'implication totale, structurelle, du système de la consommation et celui de la bréaction-somatisation, dont la fatigue n'est qu'un des aspects. Tous les processus de nos sociétés vont dans le sens d'une déconstruction, d'une dissociation de l'ambivalence du désir. Totalisée dans la jouissance et la fonction symbolique, celle-ci se défait. Mais selon une même logique dans les deux sens, toute la positivité du désir passe dans les chaînes des besoins et des satisfactions où elle se résout selon une finalité dirigée. Toute la négativité du désir, elle, passe dans la somatisation incontrôlable ou dans l'acting out de la violence. Ainsi s'éclaire l'unité profonde de tout le processus. Nulle autre hypothèse ne peut rendre compte de la multiplicité de phénomènes disparates, abondance, violence, euphorie, dépression, qui caractérisent tous ensemble la société de consommation et qu'on sent tous nécessairement liés, mais dont la logique reste inexplicable dans la perspective d'une anthropologie classique. Il faut pousser plus loin l'analyse, mais ce n'est pas le lieu ici. Premièrement, de la consommation comme processus global de conversion, c'est-à-dire de transfert symbolique, d'un manque à toute une chaîne de signifiants objets, investis successivement comme objets partiels. Deuxièmement, généraliser la théorie de l'objet partiel au processus de somatisation, là aussi transfert symbolique et investissement, sur la base d'une théorie du corps et non du statut d'objet dans le système de la modernité. Nous avons vu que cette théorie du corps est essentielle à la théorie de la consommation, le corps étant un résumé de tous ces processus ambivalents, à la fois investi narcissiquement comme objet de sollicitude érotisée, et investi somatiquement comme objet de souci et d'agressivité. Ouvrez les guillemets. C'est tout à fait classique, commente un psychosomaticien, vous vous réfugiez dans votre céphalée. Ce pourrait être n'importe quoi d'autre, par exemple une otite, des insomnies, des prurites ou eczémas divers, des troubles sexuels, une obésité, des troubles respiratoires, digestifs, cardiovasculaires, etc. Ou tout simplement, et le plus souvent, une irrépressible fatigue. Fermez les guillemets. la dépression affleure significativement là où cessent les contraintes de travail et où commence, devrait commencer, le temps de la satisfaction, migraine des PDG du vendredi soir au lundi matin, suicide ou mort rapide des retraités, etc. Il est notoire aussi que le temps des loisirs voit se développer, derrière la demande aujourd'hui institutionnelle, rituelle, de temps libre, une demande croissante de travail, d'activité, un besoin compulsif de faire, d'agir, tel que nos pieux moralistes ont tout de suite vu là une preuve que le travail était une vocation naturelle de l'homme. Il est plutôt à croire que dans cette demande non économique de travail, c'est toute l'agressivité insatisfaite dans la satisfaction et le loisir qui s'exprime. Mais elle ne saurait se résoudre par là, puisque, venue du fond de l'ambivalence du désir, elle se reformule par là en demande, en besoin de travail, et réintègre donc le cycle des besoins dont on sait qu'il est sans issue pour le désir. Comme la violence peut redevenir à usage domestique pour exalter la sécurité, ainsi la fatigue comme la névrose peuvent redevenir un trait culturel de distinction. C'est alors tout le rituel de la fatigue et de la satisfaction qui joue. De préférence chez les cultivés et les privilégiés, mais la diffusion de cet alibi culturel se fait très vite. À ce stade, la fatigue n'est plus anomique du tout, et rien de ce que nous venons d'en dire ne vaut pour cette fatigue obligée. Elle est fatigue consommée et rentre dans le rituel social d'échange ou de standing.